Bonjour Claire David.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque universitaire des Tanneurs.
Tout à fait. Ma mission, c'est de conserver justement les fonds anciens, donc à partir du XVIe siècle, des fonds rares et précieux qui demandent des conditions de conservation particulières et qui doivent être aussi communiqués avec la plus grande précaution à nos enseignants-chercheurs et même à nos étudiants à partir du niveau master. Donc, je vais vous parler surtout du fonds Ferdinand Bruneau. Donc, la Bibliothèque universitaire de Tours possède depuis 1965, sous la dénomination du Fonds Bruneau, la collection de livres du grammairien Ferdinand Bruneau. Donc, son acquisition avait été négociée en 1964 par le recteur de l'Académie, Gérald Antoine, au bénéfice du Collège littéraire de Tours. Donc, avant de voir comment ce fonds a pu se retrouver par plus grand des hasards à la BU des Tanneurs, je vais vous rappeler quelques éléments biographiques sur Ferdinand Bruneau, qui est un personnage à la fois attachant mais très méconnu du grand public, à part pour les spécialistes de linguistique. Donc Ferdinand Bruneau, il n'est pas tourangeau. Il est né le 6 novembre 1860 à Saint-Dié dans les Vosges. C'est un brillant élève des frères de la doctrine chrétienne et c'est un exemple impressionnant de méritocratie républicaine. Il entre à l'école normale de la rue d'Ulme en 1879 où il est condisciple d'Émile Durkheim, de Jean Jaurès et d'Henri Bergson, rien que ça. Il devient le plus jeune agrégé de grammaire en 1882 et est reçu premier au concours d'agrégation. En 1891, il soutient une thèse pour l'obtention du doctorat de lettres sur la doctrine de Malherbe d'après son commentaire sur Desportes, ainsi qu'une thèse complémentaire en latin qui était obligatoire à l'époque. Donc ces ouvrages, nous les conservons à la BU des Tanneurs. En 1900, il est maître de conférences et il occupe à la Sorbonne la chaire intitulée « Histoire de la langue française ». Et il débute alors la rédaction de son œuvre maîtresse, « L'histoire de la langue française des origines à 1900 », qui comporte 11 tomes parus entre 1905 et 1938 chez Armand Collin. Donc Ferdinand Bruneau, il s'est beaucoup intéressé à la pédagogie du français et surtout à l'enseignement de la grammaire. Et son grand combat, c'était pour la réforme de l'orthographe. Ça, c'est un thème récurrent. Pour lui, il est persuadé que la langue française pourrait se libérer de certains usages absurdes et compliqués que les siècles ont légués. Par exemple, il énumère qu'il y a 19 façons d'écrire le son « on » et 23 le son « un ». Donc dans un souci de vulgariser la langue française pour les écoles primaires, il rédige une série de grammaires connues sous le titre « La méthode de la langue française ». Donc dans ce combat pour la simplification de l'orthographe, il va rentrer en conflit avec ses collègues de l'Académie française notamment. Le 3 juin 1911, Ferdinand Bruneau crée les archives de la parole avec l'aide de l'industriel Émile Patté, première pierre de ce qui deviendra l'Institut de phonétique, et plus tard la phonothèque. Donc tous ces enregistrements des archives de la parole sont consultables sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Les archives de la parole se situent dans la perspective de l'histoire de la langue puisqu'il s'agit, grâce au phonographe, d'enregistrer, d'étudier et de conserver des témoignages oraux de la langue parlée. Donc Guillaume Apollinaire, Alfred Dreyfus, mais aussi nombre de locuteurs anonymes vont laisser le témoignage de leur voix aux archives de la parole. Donc 300 enregistrements sont ainsi réalisés entre 1911 et 1914. Donc il part sur le terrain et il recueille les dialectes, les traditions orales, les patois, les langues régionales dans toutes les régions françaises. En plus de ses travaux de linguiste, c'est un citoyen qui est toujours actif. Donc par exemple, il reste fidèle à sa région de naissance, les Vosges, et son père était tourneur sur bois et lui continue à sculpter le bois. Sa propre demeure est aménagée avec des meubles sculptés de ses propres mains. Et à sa mort, sa collection est léguée au musée de l'école de Nancy. Donc il a soutenu tout l'essor des arts décoratifs, en particulier ses amis de Nancy, Émile Gallet et Louis Majorelle. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914, il a 54 ans, donc son âge lui interdit de participer au conflit à titre de combattant. Mais alors il va se faire remarquer par ses œuvres humanitaires. Il prend des responsabilités politiques comme maire du 14e arrondissement à Paris, de 1910 à 1919. D'ailleurs, pour ceux qui se promènent dans le quartier de d'Enfer-Rochereau, presse de la place d'Enfer-Rochereau, il y a un square Ferdinand Bruneau. Donc il va participer au ravitaillement de son arrondissement et n'oublie pas l'aide aux plus démunis durant cette sombre période. Il prend des mesures pour réduire les difficultés de chauffage, instaure des repas préréduits, met en place une soupe populaire, fournit des aides aux maires et généralise les goûters des enfants des écoles. C'est un républicain engagé dans le courant des radicaux réformistes et pacifistes. Il fait partie des premiers membres de la Ligue des droits de l'homme qui a été instituée à l'origine pour défendre le capitaine Dreyfus. En 1934, il est mis à la retraite, mais il continue néanmoins à dispenser des enseignements à titre gratuit. Il meurt à Paris le 7 janvier 1938 Et bon, on peut noter qu'il est rare qu'un universitaire de cette époque présente une telle cohérence entre ses prises de position dans ses œuvres et ses engagements et ses combats. Donc revenons au fonds Bruno qui est conservé à la Bibliothèque de Tours. Que représente-t-il en termes de collection? Donc il se compose de plus de 14 000 documents, dont deux incunables. Donc les incunables, c'est vraiment avant l'histoire d'imprimis, c'est autour de 1490-1498. Il y a 145 livres du XVIe siècle, 2675 du XVIIe et XVIIIe, c'est environ 8000 des XIXe et XXe, et 34 manuscrits. Beaucoup d'exemplaires rares, d'unica, c'est-à-dire le seul exemplaire de l'édition se trouve à l'Université de Tours. Donc ce qui va justifier souvent des demandes de chercheurs, même au niveau international. Donc cet ensemble a été constitué à partir de la bibliothèque de Charles-Louis Livet, un tourangeau pour le coup, spécialiste de la littérature française du XVIIe et de Molière. Et en 1900, Ferdinand Bruno va acheter cette bibliothèque, il va en devenir possesseur et il va continuer lui à l'augmenter considérablement jusqu'à son décès. En 1964, André Bruno, le fils de Ferdinand, va décider de vendre cette collection à l'Académie d'Orléans pour la somme de 150 000 francs à l'époque. Donc c'est une somme dérisoire au regard du contenu de la bibliothèque. Donc, ainsi furent respectés les vœux du grammairien qui désirait que sa bibliothèque ne fût pas dispersée et restât en France. Donc, elle constitue le premier fonds de la bibliothèque du Collège littéraire universitaire de l'Université d'Orléans-Tours, devenue ensuite faculté des lettres de l'Université Tours, qui n'est créée qu'en 1970. Donc, ce qui peut frapper de prime abord dans ce fonds, c'est le nombre de dictionnaires et de répertoires philologiques, français, latin, grec, des ouvrages pédagogiques, sur les dialectes, les patois. Ces livres si divers n'ont pas été rassemblés par hasard. C'est une bibliothèque de travail, avant tout, à vocation encyclopédique. Ferdinand Bruno, pour son histoire de la langue française et ses autres publications, avait besoin notamment de retrouver les mots, d'en retrouver l'étymologie, de retracer le vocabulaire à la fois dans la langue des élites, mais aussi dans le langage populaire. C'est pourquoi on va trouver dans cet ensemble des dictionnaires spécialisés sur la marine, les eaux et forêts, la médecine, le droit, les voyages, mais aussi des manuels de conversation pour la vie de tous les jours. Donc, accompagnant les ouvrages de sa bibliothèque, le buste sculpté de Ferdinand Bruno a été également donné par ses héritiers. Il trône avant les travaux dans une salle éponyme de la BU, dans laquelle chaque année, au mois de septembre, se déroulent les journées du patrimoine, occasion de faire découvrir à un plus large public les trésors de la bibliothèque. Mais l'actualité de la BU des Tanneurs jusqu'en 2026, ce sont les travaux. Donc le fonds ancien a été déménagé pour des raisons de sécurité évidentes et de conservation. Et il est actuellement stocké à la BU Sciences à Grandmont, loin des aléas du chantier. Il reste malgré tout accessible sur rendez-vous. Alors que vous soyez chercheur ou étudiant, n'hésitez pas à venir le découvrir.
Merci à vous de nous avoir présenté Ferdinand Bruno et ce fonds. Ferdinand Bruno, Claire David. Et alors, juste une question peut-être un peu naïve, mais comment on fait pour stocker un tel volume d'ouvrages? Parce qu'on imagine qu'il y a des... Comment ça se passe à la bibliothèque? Vous avez des fonds secrets? Vous avez des couloirs secrets?
Il y a un magasin qui lui est destiné spécifiquement, donc qui est vraiment consultable sur rendez-vous. Toutes les notices des documents sont consultables dans Colibri, le catalogue. Et après, voilà, il y a des demandes sur rendez-vous, mais après, c'est dans des rayonnages, dans un magasin particulier. Ce n'est pas du tout en libre accès, exclu du prêt, évidemment.
Et ça représente à peu près quelle surface, le magasin consacré à ces œuvres? Parce que là, vous avez énuméré un nombre incroyable d'ouvrages, donc du coup, en volume...
150 mètres linéaires, quelque chose comme ça.
Ah oui, quand même. Merci. Alors, une autre question, après, je pourrais couper aussi au montage. Est-ce que vous avez des ouvrages dans ce qu'on appelle les patois du nord de la France,
oui,
en Rouchy?
Oui, du nord de France.
D'accord.
Oui, à peu près toutes les régions comme ça. Donc, c'est des lexiques à la fois avec le français. Et il y a beaucoup d'ouvrages, en plus, à noter de la main de Ferdinand Bruno. Et ça en fait vraiment une richesse.
Voilà, c'est bon à savoir. Merci beaucoup.
Je vous en prie.